Europe 1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité, c'est le dessinateur Riyad Satouf. On parle de sa dernière BD très attendue, car c'est le sixième et dernier tome de l'Arabe du futur. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Le Tournier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On n'a pas entendu votre voix, Olivier Benkemoun. Bonjour, vous êtes bien là. Plaisir de vous entendre. Et bonjour, bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur le premier match de l'équipe de France de foot au Mondial.
Oui Philippe, c'était un gros événement de ce début de semaine dans un contexte de contestation. Vous le savez, hein, beaucoup de voix s'étaient élevées contre la tenue du Mondial au Qatar. Donc on se disait que ça allait impacter les audiences. Bilan de Bruce Toussaint.
12,5 millions, c'est tout simplement le record de l'année. Je vous laisse apprécier maintenant le boycott évidemment, qui, comme vous le voyez, est très suivi.
Voilà, le boycott a duré à peine 48 heures. Et même pas, hein, parce que déjà dimanche, quand t'as plus de 5 millions de téléspectateurs devant Qatar-Équateur, c'est vraiment que t'es dans le boycott passif. Hein. C'est pas très agressif comme manifestation de mécontentement. Non, le seul vrai boycott qu'il y a eu face au match, c'était le boycott des concurrents. C'était Courage Fuyon. La France a un incroyable talent, a été remplacée par une rediffusion de Stéphane Plaza. Quotidien est passé direct en best-of et Cyril Hanouna s'est étrangement transformé en Benjamin Castaldi.
Ce soir, c'est Coupe du Monde. Cyril revient évidemment demain.
Bah oui.
Et j'ai fait venir des gens.
Sympathique.
Ouais, tu sens que Benjamin, il connaissait à peine les gens sur le plateau. T'aimes pas le foot? Tu sais articuler? Viens. De toute façon, on s'en fout. Personne ne nous regarde ce soir. Donc, premier match des Bleus. Petit contrôle des connaissances pour voir si vous écoutez mes rubriques. Comment s'appellent les habitants du Qatar?
Les Qataris ou les Qatariens?
Ah, vous savez toujours pas?
Non.
Eh ben, j'ai trouvé une meilleure appellation avec Roland Courbis.
Ils réussissent largement, évidemment, leur entrée en matière, les Bleus, dans ce mondial qatarien. On dit qatarien, hein, c'est ça, hein, je crois. On dit...
Qatari,
vous dites vous?
Les deux.
Hein. Bon, les deux. Allez, on dira voilà, qatarien.
C'était 4-1.
Oui, depuis le match des Bleus, on les appelle les 4-1.
Hein, pas mal.
Car on a gagné. Et hier, tout le monde en avait que pour un homme, Olivier Giroud. Écoutez l'hommage de Pascal Praud.
Giroud, c'est le foot d'avant. Giroud, c'est le petit Français qui a commencé à Tours. Giroud, c'est l'officier sorti du rang qui devient général 5 étoiles.
Qu'est-ce que tu veux dire de mieux, hein? Mais en duplex avec Pascal, il y avait notre ami Jacques Vendroux. Et Jacques, c'est toujours plus haut, toujours plus fort.
C'est ça, Giroud, Jacques.
Mais vous avez complètement raison. Giroud, ce matin, c'est Jésus. Voilà.
C'est pour ça que ça restera toujours meilleur, Jacques. Donc Giroud a claqué un doublé mardi soir et j'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite compile du moment où il a donné l'avantage à la France. C'était le feu dans les radios, à commencer évidemment par la nôtre, Europe 1.
C'est bien joué ça, avec une fois Rabiot, Rabiot le but, voilà, le but de Giroud, le but de Giroud, le but de Giroud.
Avec Mbappé, Rabiot, la talonnade pour Rabiot, le centre Rabiot, Giroud.
Là, il appelait des loups, je pense. On s'y croit, non, hein?
Ouais.
Bon, quand tout le monde est content, il y a toujours un rabat-joie pour doucher ton enthousiasme. Là, c'était Stéphane Guy sur BFM.
On se rappelle que les deux titres mondiaux ont été gagnés avec des attaquants qui n'avaient pas marqué un but dans le tournoi. Donc Giroud qui en marque deux d'entrée de jeu, c'est peut-être pas très bon pour nous. Ouais.
Si quand ton attaquant met deux buts d'entrée, tu vois un signe négatif, prends un antidépresseur, vraiment. Bon, sinon dans le match, il y a eu malheureusement la blessure de Lucas Hernandez, dont nous a parlé Jérôme Alonso sur la chaîne L'Équipe.
Hier, il y a encore un drame sportif, humain, que l'on vit ou non. Un joueur qui se grave blessement.
Oui, il s'est gravé blessement. Ça arrange pas nos affaires en défense, cette histoire. Car déjà qu'on avait des joueurs avec peu d'expérience, vous savez comment on sait que les joueurs ont peu d'expérience?
Dites.
Eh bah, c'est quand les gens connaissent pas vraiment leur nom. Si je vous dis charnière centrale, là c'est un petit quiz pour vous. Son prénom est Dayo, son nom est...
Je sais qu'il y a Upamecano et l'autre j'ai oublié.
Ah bah voilà, non, c'était bien.
Ah c'était Upamecano, j'avais une chance sur
bravo.
Deux.
Bravo. Bah, je m'en doutais que les autres, ils étaient aux fraises comblées. Alors on va demander à un spécialiste, Jacques Vendroux.
Ils vont être remplacés par Konaté ou Upamecano, c'est un peu difficile à prononcer en français comme ça.
Dayo Upamecano. Et son compère en défense centrale, c'était... Bah, Jacques vient de le dire. Hein.
Konaté.
Voilà, Konaté. Vous êtes concentré.
Ouais.
Mais on va quand même demander à Didier Deschamps.
La Genèse, c'est vrai que ça vaut surtout pour Ibo Kanoté et Upamecano.
Kanoté, même lui, il ne connaît pas le nom de son joueur. On n'est pas bien, les gars. Hein. Bon, sinon, le roi d'Arabie Saoudite a accordé un jour férié à son pays suite à la victoire sur l'Argentine. Nous, avec la victoire sur l'Australie, vous envisagez quelque chose, Philippe?
Ah, oh bah non.
Je m'en doutais.
On reste là.
Radin.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, on le retrouve Tout à l'heure dans Historiquement Vôtre, c'est de 16h à 18h avec l'ami Stéphane Bern. Merci, à demain Jean-Luc. Olivier Benkemoun, je me tourne vers vous, votre indispensable ce matin.
Un film qui est sorti hier qui s'appelle She Said, c'est le premier film hollywoodien sur l'affaire Weinstein et ça raconte l'histoire des deux journalistes du New York Times, deux femmes qui ont réussi à faire raconter par les témoins, elles ont été les premières à convaincre les témoins de parler, c'est très important.
Et une sorte de true story, Frédéric Le Tornier, votre indispensable aujourd'hui, vous allez parler série une fois
mais
n'est pas
oui,
coutume.
La saison 5 de The Crown qui était très attendue, qui fait polémique, je vous dirai pourquoi.
Ah ben j'ai vu ça, c'est dingue. Dans un instant, on sera avec Riyad Sattouf, on parle de son dernier album, Lara du futur, mais d'abord musique, c'est L'Homme Pâle, le morceau Maladie Moderne sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Riyad Sattouf.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous recevoir ici, dessinateur, scénariste. Je vais citer Les Beaux Gosses, c'est un film, plus d'un million d'entrées, mais surtout auteur de BD, Les Cahiers d'Esther, 1,5 million, et c'est pas fini. L'avant-dernier, c'était un roman graphique dont vous étiez venu nous parler, le jeune acteur. Sous-titré Les Aventures de Vincent Lacoste au cinéma, car c'est vous qui avez découvert ce comédien pour votre film Les Beaux Gosses. Et puis tout en haut de la pile, il y a L'Arabe du Futur. Déjà 3,5 millions d'albums vendus pour les 5 premiers tomes. Il est traduit en 23 langues. Et voici que sort le 6e et dernier tome de L'Arabe du Futur. C'est publié chez Alary Édition. Il est indiqué 1994-2011. Pourquoi vous arrêtez en 2011? Le futur s'arrête ici.
Alors, je vais sans divulgacher ce qu'il y a dans le livre. En fait, fin 2011, il s'est passé un événement dans l'histoire de L'Arabe du Futur qui a déclenché en fait mon envie de raconter c'est l'histoire de ma famille comme je l'ai fait dans cette série. Donc je voulais revenir sur cette période, sur la vie en Syrie, etc. depuis longtemps, mais je n'avais pas la fin de cette histoire. Et c'est une fois que j'ai eu la fin que j'ai pu commencer le début.
Alors je rappelle votre histoire personnelle qui est assez unique. Votre papa est syrien. Jusqu'à l'âge de 11 ans, vous l'avez perdu il y a quelques années. Jusqu'à l'âge de 11 ans, vous avez vécu en famille dans un petit village de Syrie à côté de Homs. Votre maman est bretonne. Vous avez ensuite vécu à Rennes, puis vous êtes parti habiter seul à Nantes. C'est dans l'album. Vous racontez, ça démarre là, vos années lycée, quand vous êtes un jeune ado complètement perdu, pléonasme, sans aucune confiance en lui. Et vous dites, je m'appelle Riyad, en 94 j'avais 16 ans et j'étais un semi-psychopathe. Qu'appelez-vous un semi-psychopathe?
Non, semi-psychopathe, c'est-à-dire... vous savez...
Bah dites pas non, c'est dans votre livre. Vous faites un livre, je prépare des questions, me dites pas non, c'est vous qui l'avez écrit. Bah
c'est une expression, c'est la façon de parler, phrase. De dire non. Non, disons qu'il y a psychopathe et il y a semi-psychopathe. Ouais. Voilà, c'est pas la
non,
même
mais
chose.
Psychopathe, je vous aurais pas cru. Semi-psychopathe, je me suis dit, si ça se trouve, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il entend par là?
En fait, extrêmement tôt, j'étais un énorme obsédé. J'avais des obsessions. J'étais obsédé par les livres, par exemple. J'étais obsédé par la bande dessinée. Et en fait, vous savez, je m'intéressais au monde des sportifs ou au monde des acteurs de cinéma, etc. Et je voyais bien que si vous vouliez faire de votre passion votre vie, il fallait la pratiquer ultra intensément tout le temps. Les grands musiciens, je sais pas, moi Yehudi Menuhin, ils faisaient que ça du matin au soir tout le temps. Donc je m'étais fait moi-même mon propre programme. Je me suis dit, mais je vais dessiner comme un malade toute la journée du matin au soir. Mais de toute façon, je n'arrive pas à parler aux gens, je n'arrive pas à les regarder dans les yeux, les filles me font peur, les mecs les trouvent trop musclés, je suis moche, j'arrive pas, je machin. Et donc j'étais extrêmement complexé et introverti vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, évidemment, je me suis renfermé sur ma passion. Donc, c'est en ça que je dirais semi-psychopathe, parce que j'étais inapte à la vie en société, je pense.
J'ai appris quelque chose, je ne savais pas que ça existait, moi, qui adore les t-shirts. Il y a une description de votre look qui est terrible. J'ai noté ceci, mets deux t-shirts l'un sur l'autre pour faire plus musclé. J'ai jamais pensé. Encore plus terrible, c'est la description que vous faites de votre état psychologique. Se trouve laid et repoussant, c'est vous. Et j'aime beaucoup cette phrase, certain que tout le monde le déteste alors que les gens ne savent même pas qu'il existe. Quel effet ça fait maintenant de savoir que le monde entier, enfin beaucoup, beaucoup de gens dans le monde, sait que vous existez?
Alors c'est souvent ce que dans L'Arabe du Futur raconte l'histoire de ma famille, c'est des gens qui étaient très croyants. Alors c'était croyants dans tous les sens du terme. Il y en avait qui étaient superstitieux, il y en avait qui croyaient en Dieu, il y en avait qui croyaient en la Vierge Marie, il y en avait qui étaient musulmans, il y en avait qui croyaient au paranormal. Et tout le monde essayait de croire qu'on était prédestiné, etc. Et moi j'ai été un peu comme ça, parce que je rêvais de voir un phénomène paranormal une fois dans ma vie. Ça n'est strictement jamais arrivé. Moi je suis profond profondément athée, mais je dirais quand même que le seul vrai phénomène paranormal auquel j'ai jamais assisté, c'est le succès de l'Arabe du futur. Parce que pendant des dizaines d'années, cette histoire n'a intéressé personne. Et là, quand je l'ai fait en bande dessinée, hier j'étais dans une librairie, il y avait une file ininterrompue de gens extrêmement sympas, de toute classe sociale, de toute origine, qui connaissaient mieux la vie de ma famille que moi. Et je dois dire que c'est hallucinant. Ouais,
question, vous me répondez par oui ou par non, parce qu'il faut qu'on marque une pause. Il y avait des jolies filles ?
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Il n'en a jamais vu pendant des années et des années. C'est Riyad Satouf et c'est l'un de ses, je ne vais pas dire combats, mais l'un de ses mantras. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes bien dans Culture Média, sacrée programmation ce matin. J'étais assez impressionné parce qu'on recevait Lynn Tonuti. C'était la quatrième de couve de Libération. Mais c'est rien à côté de la une de la Croix. L'Arabe du futur, la fabrique d'un succès. Notre invité, c'est Riyad Satouf. C'est impressionnant quand même de faire la une et quatre pages
mais
dans le quotidien français.
Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais c'est un rêve. Comme disait Marc Aurèle, ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'espérais même pas.
Je
peux poser une question à Riyad Satouf ?
De toute façon, maintenant, bon, c'est parti. Bah, vous me voyez dire non ?
Ouais, alors, dans l'Arabe du futur, 1, 2, 3, 4, il était petit, il était blond. Ouais. Il avait des grands cheveux, des longs cheveux. Aujourd'hui, dans le dernier tome, il est un peu plus âgé. Il est toujours blond. Alors qu'il n'est pas blond, il faut dire la vérité. Dans la vie, il n'est pas blond. Et en plus, il s'est fait avec une banane. Donc moi, j'aimerais comprendre.
Dans votre tête, vous êtes blond.
Ah, j'ai vachement perdu de cheveux ces dernières années. Non, en fait, dans mon style de dessin, pour moi, je suis pas blond. Parce qu'en fait, il y a une couleur bleue qui est dans les cheveux. Donc je me dis, c'est les cheveux qui sont assombris. Mais je dois admettre que vous avez raison, Olivier Benkemoun, parce que c'est une sorte de lapsus graphique. Comme si je regrettais d'avoir perdu en effet ces cheveux blonds qui ont fait ma renommée quand j'étais petit. Et je continue un peu vaguement à me dessiner les cheveux clairs, alors que c'est pas le cas. Mais l'auto-représentation, c'est très compliqué. Donc voilà, mon personnage s'est un peu éloigné de moi, mais ça me permet de prendre une distance avec l'histoire.
On est un petit peu dans notre sujet, on parlait de cinéma. Vous me direz un mot des Inconnus après, on va voir si le film se fait ou pas. Votre indispensable, est-ce qu'il est réaliste ? Votre indispensable, Olivier Benkemoun, c'est le premier film hollywoodien autour de l'affaire Weinstein, ou Weinstein, on prononce comme on veut.
Oui, c'est un film qui s'appelle She Said. Vous avez peut-être repéré l'affiche, c'est le visage d'une femme à contre-jour. She Said, c'est un film basé, effectivement, sur la première grande enquête journalistique qui a dévoilé quel prédateur sexuel était Harvey Weinstein. Et ce qui est montré dans le film, c'est comment les autrices de l'enquête, qui ont reçu le Pulitzer, d'ailleurs, la plus haute distinction journalistique, comment elles ont réussi à convaincre des femmes de témoigner. Et de témoigner, non pas anonymement. Il aura fallu un grand talent de persuasion, de mise en confiance, de ténacité pour obtenir des témoignages for the record, comme on dit aux États-Unis. Et il y avait face à elle de la pression et beaucoup de silence, beaucoup de choses enfouies et beaucoup de portes qui ont refusé de s'ouvrir.
Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler.
Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière ?
Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois, il étouffe l'affaire.
Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression.
Il a berné tout le monde.
Alors, c'est pas un film sur Weinstein, hein, c'est pas son portrait. D'ailleurs, on le voit qu'une fois et de dos. C'est un film sur une enquête journalistique. C'est un film qu'on pourrait dire de cafétéria. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. On a beaucoup de plans dans des cafétérias, dans des cafés, dans des restaurants, dans des lieux où les journalistes rencontrent en fait toutes sortes de témoins, d'informateurs. Parce qu'on fantasme parfois sur le métier de journaliste. Ce sont des mails, ce sont des coups de téléphone, quelques réunions rapides avec vos directeurs, avec le juridique, etc. Mais et c'est du téléphone, des rencontres, des heures, surtout des heures à écrire face à un écran.
Vous vous êtes dit qu'il avait fait les mêmes choses à d'autres.
Qu'il avait essayé, il n'y avait aucun doute. Mais j'ai cru que les autres, elles... que les autres avaient dit non.
Alors des témoignages avant tout. Hein. Le soir de la première à Hollywood, il y avait des actrices, il y avait aussi quelques-unes des vraies victimes d'Harvey Weinstein qui avaient mis en place, avec le soutien, on le rappelle, de Miramax, sa compagnie aux États-Unis comme à Londres, tout un système qui était complice de ces prédations sexuelles. Et pour les empêcher de déposer plainte, il a aussi payé des femmes pour les empêcher de parler et de témoigner. Il a fait des contrats, actrices d'ailleurs, comme employées.
Je revois encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces.
Il essayait sans arrêt de me toucher. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. J'étais jeune, j'avais peur.
Alors, pour revenir au film, encore une fois, il met en lumière le travail de ces journalistes, Megan Towey et Jodie Canter, qui ont réussi à convaincre toutes ces femmes de leur faire confiance, de leur parler, d'accepter encore une fois que leur nom soit cité, qui ont dû se battre contre les avocats de Weinstein, les intimidations contre le journal, contre le New York Times. Ce qui est remarquable aussi, c'est que quelques actrices victimes de Weinstein, et qui sont des visages connus de Hollywood, jouent leur propre rôle, comme Ashley Judd. Alors, peut-être ça vous dit rien, mais c'était l'une des premières à avoir dénoncé Weinstein, et il a réussi à anéantir sa carrière parce qu'elle a refusé ses avances. C'est aussi ça le système Weinstein. Tu couches avec moi, sinon pas de carrière, et tu le sais.
Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations...
Quelles indemnisations, John ?
Voilà, tout est dévoilé dans le film. Je termine en disant qu'il sort au moment où continue à se tenir le procès Weinstein aux États-Unis. Il a déjà été condamné à 23 ans de prison. Là, il risque la perpétuité. Encore une fois, aucune scène de viol ou violence est montrée à l'écran. Weinstein, on le voit, on le voit pas. Et puis le film s'arrête au moment où le New York Times met en ligne, après bien des doutes, l'article. Il n'est pas question encore du mouvement MeToo et de l'énorme vague de fond qui a suivi partout dans le monde et dans toutes les entreprises, et pas qu'au cinéma, évidemment.
Je veux retrouver ma voix.
She Said.
Au cinéma cette semaine. Merci Olivier Benkemoun. Vous avez le temps d'aller au cinéma, vous y allez ?
Non, j'avoue que j'y vais beaucoup moins qu'avant et je préfère rester chez moi. Et c'est vrai que je trouve aussi que les spectateurs ont peut-être moins de civisme. Je sais pas, je suis gêné par les gens qui arrêtent pas de regarder leur portable,
ah bon,
qui parlent et qui sont là, ouais, je suis au cinéma là, ou les nanas qui demandent à leur mec, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, je sais pas, être dans une salle enfermée avec d'autres gens, j'ai peur qu'il y en ait un qui se lève et qui devienne fou. Enfin, je sais pas. Enfin, je préfère être chez moi.
Votre prochain projet cinéma, c'est quoi ? C'est le film avec les trois inconnus ?
Bah, je suis en train de l'écrire, oui, tout à fait.
Et qu'est-ce que ça va raconter ?
Oh là là, c'est Secret Défense, puis surtout, il ne faut pas en parler parce que ça pourrait nous... Non, non, tant que ce n'est pas fait. Mais j'adore les inconnus et voilà, je veux... c'est un scénario de moi avec eux comme acteur.
Et le scénario a été validé par eux ?
C'est
ou
en
est-ce
cours,
que c'est...
cours.
Ou est-ce que c'est au contraire une commande d'eux ? Ils disent, écris-nous un film et on verra bien ce que c'est. Ou est-ce qu'ils étaient arrivés avec une idée ?
Non, pas du tout. Non, non, non. C'est le producteur du film, Philippe Godot. En fait, ça fait des années que dans les interviews, je dis que j'adore les inconnus, ouais, en espérant qu'un jour, il me demande d'écrire un film. Et c'est arrivé, figurez-vous. Philippe Godot m'a appelé, il m'a dit, si vous voulez écrire. Et là, j'ai dit oui tout de suite. Et donc, c'est une histoire originale, par contre.
On en parle de l'Arabe du futur, c'est Riyad Satouf, on a encore plein de projets, j'avais envie de vous parler de Spielberg. On marque une courte pause, Culture Média revient.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Riyad Satouf qui signe l'Arabe du futur 6, c'est le 6e tome très attendu. Et quand je dis très attendu, c'est pas un artifice pour le lancement. 3,5 millions d'exemplaires vendus pour les 5 tomes précédents. Donc, il y a une véritable attente. Vous y racontez votre jeunesse. D'abord, ça avait démarré au Moyen-Orient et puis en France. 1994-2011, ça va de l'adolescence à vos premiers succès comme dessinateur. Il y a une partie de votre famille qui est en Syrie. Il y a un cousin qui vous contacte via Internet, puisqu'il y a l'invention d'Internet qui arrive, qui fait irruption, qui vous demande de vos nouvelles. Il vous parle en anglais. Et il vous dit de faire attention aux filles, aux copines à Paris. Il dit, c'est interdit par la religion.
Bah de toute façon, oui, c'est vrai que la sexualité libre est interdite par toutes les religions, y compris par la religion de mes cousins. Donc c'est vrai que c'était un... C'était...
Oui, mais je pensais que les jeunes ne suivaient pas les préceptes religieux.
Bah non, mais c'est... En fait, on a beau ne pas les suivre, par exemple, mais ils sont quand même présents dans la tête. Ce sont les interdits moraux, culturels de la société, même quand on n'est pas croyant. Je veux dire, même aujourd'hui, en France, si vous n'êtes pas religieux, vous ne pratiquez pas, vous avez encore des interdits dans votre tête. Vous savez bien que être trop obsédé, avoir trop de partenaires sexuels, c'est mal, etc. Vaut mieux essayer de fonder une famille, etc. Donc voilà, c'est vrai que je raconte ça aussi et que c'est un... L'intérêt pour le sexe et pour l'amour, etc., c'est aussi une métaphore de l'intérêt pour la vie. Voilà.
C'est au-delà de la métaphore, parce que c'est physique. vous racontez les tourments d'adolescence et vous dites que regarder les jolies filles vous provoquait des douleurs physiques.
Ça, c'est une grande convention humaine. Je pense, Philippe, vous étiez pareil quand vous étiez jeune. C'est vrai que quand on est adolescent, on a une espèce de tempête hormonale,
oui, mais
incroyable.
Pas au point de somatiser et d'avoir une douleur physique.
Bah oui, c'est ça. Bah vous, de c'est toute façon, cette énergie qu'on ressent ou cette sensation, on est obligé d'en faire quelque chose. Donc c'est en général pour ça qu'à cet âge-là se déclenchent les grandes passions. Donc vous allez devenir musicien, faire un groupe de rock pour essayer de faire passer cette énergie, de devenir, je sais pas moi, acteur, de vous mettre à faire des mathématiques comme vous m'en racontiez tout à l'heure, à devenir un psychopathe des maths. Moi, je suis devenu un psychopathe de la BD. J'étais obsédé à l'idée de faire des livres. Je me disais que ça allait changer ma vie. Voilà. Mmh. En fait, c'est une énergie qui se déclenche.
Vous étiez très jaloux des écrivains et vous disiez qu'ils étaient très sollicités sexuellement, alors que dans le milieu de la BD, vous avez dit, c'était au point, j'ai retrouvé cette interview. Je connais quelqu'un qui a dû attendre de vendre 50 000 exemplaires avant de pouvoir coucher pour la première fois. Vous parliez de vous, évidemment.
Non, pas du tout. Alors non, parce qu'à l'époque de cette interview, j'avais beaucoup moins de lecteurs.
D'accord.
Non, mais c'est vrai, de toute façon, c'est aussi une convention. Le succès amène le succès. Je veux dire, c'est un... Mais alors, les auteurs de bande dessinée, c'est particulier, parce que c'est un univers... je ne conseillerais pas ça à quelqu'un qui a envie d'avoir des fans effrénés. Vaut mieux faire un groupe de rock. Mais je pense que c'est plus efficace.
Je vous pose des questions comme si on était sur le divan d'un psy, parce que c'est des questions extrêmement personnelles. Et si vous vouliez y répondre, il faudrait des heures et des heures. Dans cet album, vous allez voir des psys, et pas qu'un peu, il y en a trois. Ils sont différents. Pourquoi aller voir des psys? Pourquoi trois différents?
Bah vous savez, quand vous choisissez d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider ou pour parler, etc., vous avez le droit de choisir. La première séance est gratuite.
Et donc moi, je savais pas.
Si, si. Et alors, vous allez, parce qu'il faut quand même bien vous entendre avec la personne que vous allez voir. Donc, moi, en effet, j'ai raconté dans ce tome les différents psys que je suis allé voir. Et donc, il y avait en effet une psy qui était géniale, qui rêvait absolument de... Mon cas, je pense, l'intéressait à fond, mais elle était ultra canon. Et vous savez, quand on va chez le psy, le but du psy, c'est de faire un transfert. C'est-à-dire, à un moment, vous projetez sur le psy des choses et qu'il vous renvoie sans émotion et sans... Et alors elle, j'ai fait un transfert dès la première fois. J'étais amoureux d'elle tout de suite, donc je ne suis pas allé la voir.
Mais vous aviez conscience du transfert. Parce que vous dites absolument pas que j'allais la voir, sinon c'est danger pour moi.
Bah non, mais c'est terrible. Mais peut-être ça aurait extrêmement bien marché, parce que plus le transfert est fort, plus ça marche.
Il y a deux personnages centraux dans cet album. Il y a un qui est présent, c'est vous, et il y a un absent, une figure tutélaire qui est dessinée en rouge, parce que c'est plutôt à base de bichromie bleu, ciel et blanc. Les pages, et puis en rouge, c'est votre papa qui vous regarde, Abdel Razak Satouf, qui est parti en Syrie, qui avait enlevé votre petit frère. J'ai peine à croire ce que vous avez dit de lui, parce que vous n'avez pas été tendre récemment, c'est l'AFP qui relevait ça. Vous l'avez qualifié d'islamiste, d'extrême droite, raciste.
C'est oui, mon père, en fait, c'était un arabe d'extrême droite. En fait, il était panarabiste, donc c'est-à-dire qu'il était extrêmement nationaliste. Lui, ses idoles, c'était Saddam Hussein, Hafez al-Assad, Kadhafi. Voilà, il venait d'un milieu populaire, enfin un milieu extrêmement pauvre de paysans. Et grâce à l'école, il était devenu docteur en histoire. Et donc, il vénérait l'école. Et en fait, son parcours à lui était très proche, par exemple, du parcours de Saddam Hussein, par exemple, qui avait grandi dans un petit village sordide et qui avait réussi par l'école à devenir éduqué et avait fini par faire un coup d'État et à devenir le dictateur de l'Irak. Mon père rêvait de faire un coup d'État. Donc c'était vraiment l'extrême droite, c'est quelque chose... voilà, il adorait Pinochet, il adorait les régimes militaires forts, il pensait que la liberté n'était pas pour tout le monde, que les gens, si on leur donnait la démocratie, ils allaient voter immédiatement pour n'importe qui.
Ça, c'est l'extrême droite, et raciste comment ?
Raciste, bah par exemple, il détestait Israël, il détestait les Juifs, il était très raciste envers les Noirs, les personnes noires, il était très... Il en parlait extrêmement librement. Donc voilà, c'est vrai que aussi l'Arabe de futur, ça raconte ça, comme on grandit avec une figure comme ça de... Quand on est un enfant, on admire son père, et peu à peu, les années passent, et on finit par voir les choses telles qu'elles sont réellement.
Je voudrais terminer ce passage sur une note positive. Vous dites que la France, vous tordez le cou à un cliché, vous dites « Je ne vois pas de pays moins raciste que la France ».
Ah ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon livre est sorti dans 23 pays. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, à chaque fois dans des super conditions. Je ne vois pas de pays déjà mieux que la France. Honnêtement, c'est le meilleur endroit du monde pour faire des livres, pour s'exprimer, pour vivre. Moi, je suis prêt. Citez-moi un pays moins raciste que la France. Il n'y a pas de loi raciste. On peut raconter ce qu'on veut. Il y a des racistes en France, bien sûr. Ça, c'est une évidence. L'extrême droite est forte. Mais si vous prenez les États-Unis, l'extrême droite est au pouvoir, a été au pouvoir aux États-Unis. Donc, ça n'a rien à voir avec la France. Je ne sais pas. J'adore la France.
On va passer des États-Unis au Royaume-Uni, parce qu'on va parler de cette série qui fait beaucoup, beaucoup parler. The Crown, série qui comporte des millions de fans dans le monde, et ils sont très déçus par la saison 5. On en parle juste après ça.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
L'Arabe du futur, si c'est comme une série, Riyad Satouf, ça pourrait devenir après une série ou pas du tout? On vous l'a proposé?
Ah, on me l'a déjà proposé, oui. Alors après, bon, c'est compliqué à faire en dessin animé déjà, parce que c'est un énorme travail. Et puis avec des acteurs, ce serait encore plus compliqué.
Déjà, je fais lien avec ce que disait Olivier Benkemoun, il faudrait trouver un acteur blond pour jouer votre rôle. Frédéric Le Ternier, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est moi qui vous ai demandé de vous pencher ce matin sur la dernière saison, la saison 5 de la série The Crown, série adulée. Mm-hmm. C'est sur la plateforme Netflix. Pourquoi ? J'ai pas vu la saison 5, j'ai vu quelques épisodes, mais je me dis, mais c'est pas possible. Il y a une polémique mondiale depuis sa sortie. On voudrait savoir pourquoi.
Oui, Philippe, et j'espère vraiment être à la hauteur de ma mission ce matin. Car autant vous le dire, The Crown, ce n'est pas un sujet dont on parle à la légère, tant il y a de fans dans le monde entier. Alors, absolument pas. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de la série, même de loin, je sais pas, c'est que vous vivez sur la banquise. Ça marche aussi avec l'Arabe du futur, d'ailleurs, attention. Mmh. Mais qu'à cela ne tienne, je veux bien rembobiner pour ceux qui, shocking, auraient loupé le ferry. The Crown est une série qui a vu le jour en 2016, qui nous raconte bien sûr la vie de la reine Elisabeth II, de son plus jeune âge jusqu'aux années 2000. Les comédiens, le principe, c'est qu'ils changent toutes les deux saisons pour coller aux âges des protagonistes. Et cette série, elle est réalisée par Peter Morgan. 6 saisons annoncées au total. Les premières, elles ont été vraiment acclamées par la critique, par le public dans tous les domaines. Réalisation, casting, interprétation, fidélité historique. Le hic, c'est que ça coince vraiment avec l'arrivée de la cinquième.
Fidèle historique, il y a eu des petits soucis, mais ce n'était pas comme maintenant, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui a changé, Frédéric, par rapport aux saisons précédentes?
Alors déjà, je vous dirais, l'attente, elle était considérable, car la cinquième saison retrace les années 90 au sein de la famille royale, bien sûr, en s'arrêtant longuement sur l'année 1992, parce que c'est celle où la princesse Anne divorce, bim, celle de la séparation du prince Andrew et de Sarah Ferguson, rebim. Bon, ça encore, ça va. Mais c'est surtout celle où Lady Diana a accordé une interview à la BBC pour parler de l'infidélité de son mari, le prince Charles, et de sa souffrance au château, ce qui avait fait trembler l'establishment à l'époque. Voici donc un extrait où le journaliste Martin Bashir la questionne sur la maîtresse de son mari.
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Ça, c'est l'authentique interview.
Exactement. Elle nous dit 3 dans un mariage, c'est un peu serré, c'est un peu trop. Beaucoup de spectateurs se souviennent de cette période, contrairement aux saisons précédentes qu'on n'a pas vécues, évidemment. Alors, de plus, cette saison, elle sort après les obsèques de la reine, qui ont ému beaucoup d'entre nous. Certains avaient très logiquement envie que Peter Morgan ne tape pas trop fort sur la famille royale. Eh bien, c'est raté.
La famille royale traverse une véritable crise.
Les scandales royaux ont-ils nui à la réputation de ce pays ?
La maison des Windsor devrait unir la nation. Elle devrait donner l'exemple d'une vie de famille idéale. Cette situation ne peut qu'affecter la stabilité de notre nation.
Ça fait des années que j'en appelle à une monarchie plus moderne qui soit en phase avec le monde.
Je ne crois pas que ce soit mon comportement qui menace sa survie. Vous, en tant que futur roi, avez un devoir.
Les gens ne pourraient jamais savoir ce que j'ai réellement traversé.
Extrait de la bande-annonce version française. L'autre problème, c'est que les spectateurs avaient tendance à prendre The Crown, on l'a dit, pour un documentaire historique. Alors ici, il semblerait que les inexactitudes soient trop nombreuses, ce qui a provoqué une vive controverse. Des voix se sont élevées, comme celle de John Major, ancien Premier ministre, Tony Blair également. Don't act. Netflix a dû ajouter un avertissement avant chaque épisode, alors qu'il s'était toujours refusé à le faire, en précisant que l'histoire était inspiré de faits réels.
Alors voilà pour l'histoire, mais le casting ne plaît pas non plus.
Absolument, Philippe. Absolument. C'est dramatique. C'est un autre point de tension. Pour prendre la température, j'ai fait appel à ceux qui tueraient plutôt que de manquer un épisode à l'heure du thé. J'ai réussi à infiltrer le milieu très fermé des super fans de The Crown. Alors certains d'entre eux m'ont donné leurs sentiments sur cette épineuse question du casting. On commence par Vanessa, passionnée par l'Angleterre et une fan de la série de la première heure.
Là, la saison 5, j'ai un petit peu de mal. Peut-être aussi parce que c'est l'histoire contemporaine et on connaît l'histoire de Charles et de Diana, on connaît tous les soucis que la reine a eu. Et moi, j'ai un gros problème, c'est le prince Charles. Dans cette saison 5, il ressemble absolument pas au prince Charles. Enfin, on dirait un Italien tout bronzé, méditerranéen. Il a même pas les oreilles décollées. Enfin, non. J'ai vraiment du mal à transposer et à mettre dedans. Habituellement, je regarde une saison en 2 jours. Là, ça fait 10 jours, j'ai pas fini. Donc, c'est signe que c'est un petit peu moins bien. Mais c'est quand même toujours très bien.
Ah oui, Dominique West, le comédien qui incarne le prince Charles, poserait visiblement problème.
Ça a bien fait marrer Riyad Satouf, parce qu'ils ont mis un tombeur pour...
C'est hallucinant, Dominique West, c'est un des plus beaux acteurs.
Ouais.
Enfin, Oui, c'est erreur de casting.
Oui, et sans faire injure, on ne peut pas dire ça du prince Charles.
Il a du charme, c'est pas pareil. Alors, en revanche, Elisabeth de Vicky est saisissante de ressemblance avec Diana. Bon, j'ai aussi posé la question du casting à Thomas, qui m'a dit adorer les gossips. Vous allez l'entendre, son avis est très tranché.
Non, cette saison 5 de The Crown, pour moi, c'est vraiment la pire. Et je mâche mes mots, bah, j'ai rien appris. Alors bon, Diana... incroyable. Il n'y a absolument rien à dire. C'est le meilleur personnage de cette saison. Et heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Charles, il lui manque les oreilles en chou-fleur. Il faut être très honnête. Et surtout, il est beaucoup plus beau que le vrai. Ce qui est quand même un vrai problème. Bon, Margaret, je cherche toujours la ressemblance. Le casting est très décevant. Bah, je vais recommencer la saison 1. Elle m'arrête à la saison 4.
Elle t'attend la saison 6, quand même.
En espérant qu'on en voit plus.
Et je vous avoue que par retenue britannique, je n'ai diffusé que les moins virulents. Alors en tant que novice, j'ai eu beaucoup de plaisir franchement à la regarder cette saison 5. Car parmi, c'est vrai, de la redondance, certains épisodes peuvent se révéler grandioses. Surtout celui sur le parcours de Mohamed Al-Fayed, il est vraiment très bien. Alors qu'on soit aficionado de la série The Crown ou simple curieux, je pense qu'on ne peut pas dire de but en blanc que cette saison 5 est ratée. En revanche, il est fort probable qu'elle soit moins réussie que les autres. C'est ça le bilan. Alors qui sait, peut-être la réconciliation viendra de la dernière, la saison 6, qui devrait nous arriver probablement en 2024. Mais même à ce moment-là, sachez que l'aventure continue avec de nouveaux personnages. Ceux-là, ils sont dans la vraie vie. Et pour ça, j'adresse un immense merci à Kate Middleton et Meghan Markle qui continuent à alimenter les scandales royaux. Et il n'y a pas à dire quand même. It's so delightful.
Bien sûr. Et Kate et Meghan qui nous écoutent, évidemment. Merci, Greg Le Tournier. C'est pas vous qui mettriez des beaux gosses pour jouer des types horribles. Racontez ce que vous avez dit la première fois que vous avez fait le casting de votre premier film. C'est extraordinaire.
Bah en fait, je c'était les beaux
gosses. C'est dans l'album, c'était pour les beaux gosses.
Bah en fait, je quand on fait un film, on a un directeur de casting qui vous propose des acteurs, et je voulais faire un film sur des jeunes, et en fait tous les acteurs qu'on me proposait étaient beaucoup trop beaux. Et donc voilà, moi je voulais des moches comme dans la vraie vie, et donc il a fallu faire un casting sauvage, donc aller les chercher vraiment dans les collèges. Et c'est vrai que souvent, le cinéma part du principe qu'il faut être plus beau ou je sais pas, valorisant, alors que c'est beaucoup plus marrant et plus intéressant de montrer comment les choses sont réellement.
Donc ils étaient moches, qui avait le premier rôle? Comment il s'appelait votre acteur?
Vincent Lacoste. Alors lui, Vincent, il était un peu trop beau, justement, j'étais obligé de le rendre un peu plus moche, voilà. En lui faisant des boutons, en lui faisant une coiffure un peu... il avait une petite bouche de têteur, comme ça. Il était top. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu un acteur. Il est très séduisant, maintenant.
Vous savez quoi? Il sera lundi. On va lui repasser cet extrait. Merci beaucoup, Frédéric. Culture Média continue. Riyad Satouf est avec moi tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Riyad Satouf, l'Arabe du futur, le tome 6 vient de sortir aux éditions Alary. Roman graphique ou BD très attendu. Vous racontez votre famille. Et je me dis, mais tout est dingue dans sa famille. Votre papa qui est... reparti en Syrie avec l'un de vos frères, votre maman qui va avoir des voyantes. Et là, je me dis, c'est possible. Mais ce que je n'avais jamais vu, c'est le grand-père qui découpe ses poubelles.
Oui, alors c'est vrai que les personnes âgées parfois développent
des tocs.
Des tocs, c'était une sorte de toc.
Mais ça veut dire quoi, découper ses poubelles? J'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Je regardais les dessins, je comprenais pas.
Bah, par exemple, vous avez un pack de lait. Alors il accumulait les packs de lait dans son petit cabanon et en fait, il est découpé en tout petits morceaux. Pour occuper moins de place dans les poubelles. Donc c'était des sacs poubelles ultra méga remplis. Donc c'est aussi une forme de métaphore du cerveau rempli, peut-être avec les regrets, etc.
Et votre rêve secret, c'était d'avoir une famille normale. Très, très impressionnante, la page de garde de l'Arabe du futur. Je vais la lire ici, je tourne. L'Arabe du futur est édité dans les langues suivantes. Allemand, américain, anglais. Ce qui est différent, c'est deux maisons d'édition. Il y en a une à Londres, une à New York. Brésilien, catalan, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais. C'est pas la même chose que le brésilien. Roumain, russe, serbe, slovène, suédois, tchèque. Et là, je tombe de ma chaise. Comment se fait-il que l'Arabe du futur ne soit pas édité en arabe?
Ah, pour une raison vraiment très simple, beaucoup moins sexy que ce qu'on voudrait. Mais c'est qu'en fait, il y a très très peu d'éditeurs en langue arabe. C'est une langue où il y a très peu de traductions. Et les éditeurs... Alors, il y a eu un éditeur qui était intéressé par l'Arabe du futur. En fait, il voulait publier que le tome 1 et voir si ça marchait avant de faire la suite. Or, moi, je ne pouvais pas prendre le risque de lui laisser faire le tome 1, que ça ne marche pas et que l'Arabe du futur n'existe que au travers du tome 1, parce que c'est l'histoire des 6. Donc, j'attendais que ce soit terminé pour le propos. Donc, je vais voir. Là, je crois que c'est en cours. Il y a un éditeur qui est intéressé.
Voilà. Et pourquoi vous ne l'éditez pas vous-même? C'est pas possible, parce que c'est votre structure à Alary.
Ouais, mais c'est très compliqué. Franchement, c'est surtout dans une langue. Moi, je ne parle plus arabe. C'est très, très compliqué à faire. Il y a quand même 1000 pages et tout. Hein. Je ne me lancerai pas là-dedans.
Je le rappelle, vous avez une histoire personnelle assez unique. Vous venez de Syrie. Vous aviez un cousin syrien qui était homosexuel. C'était pas facile. Vous savez pourquoi j'en parle? Parce que ça pose un problème en ce moment au Qatar avec la Coupe du Monde.
au point que la police traque frénétiquement les gens qui se promènent dans la rue avec un brassard multicolore. Et là, on revient au problème de filles. C'est quoi le problème de la culture arabe avec l'homosexualité ?
Oh là là, mais c'est une question beaucoup trop compliquée que je ne saurais pas analyser ça. Disons que c'est comme... c'est le judéo-christianisme. C'est la même chose, c'est-à-dire ce qui n'est pas... ce qui ne va pas dans le sens de la famille est interdit. C'est à la fois valable pour l'homosexualité, mais pour la sexualité libérée.
L'homosexualité, elle est largement tolérée. Il y a le mariage gay et pour tout ce qui existe dans les pays occidentaux. Et aussi, puisque vous parlez de judéo-chrétien et en Israël...
Oui, mais vous savez bien que ce n'était pas le cas il n'y a même pas 100 ans, 150 ans. Je trouve qu'il y a le monde évolue.
Alors, je pose ma question différemment. Qu'est-ce qui bloque encore ?
Oh là
j'ai
là
compris ce que vous
ah non,
dire.
Mais moi, ce que je trouve qui bloque encore, c'est... Je ne comprends pas que l'équipe de France ne mette pas le brassard en y allant, par exemple. Ça, c'est un...
Ah, moi, j'ai compris. Pourquoi ? Vous avez vu ce que c'est ou pas ? Si on met le brassard, le capitaine prend un carton jaune.
Et bah, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça...
Et il ne veut pas être suspendu pour le, pour le prochain match. J'aime beaucoup ce que vous avez dit à La Voix du Nord récemment. Vous dites, j'ai voulu faire une bande dessinée pour les gens qui n'en lisent jamais.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a été le but de l'Arabe du futur au départ. J'imaginais comme première lectrice rêver ma grand-mère bretonne qui n'aimait pas la BD, savait pas ce que c'était, trouvait que c'était pour les neuneux. Enfin voilà. Et je me suis toujours dit, je vais faire un livre qu'elle aurait aimé lire, avec des dessins simples à comprendre et en même temps beaucoup de pages, des textes, etc. Voilà, et en fait, je crois que j'ai un peu réussi parce que j'ai que des gens qui viennent me voir en me disant « c'est la première BD que je lis » ou des mamies qui me disent « la première que j'ai lue, c'est Bécasside et la deuxième, c'est l'Arabe du futur ». Donc j'adore, non, c'est mon meilleur public.
Riyad Satouf qui refait les voix quand il raconte ses séances de signature. Dernière petite question, j'ai retrouvé ça dans Télérama en mars 2012. Dans vos rêves d'ado, vous étiez persuadé qu'un jour Spielberg viendrait vous chercher pour tourner un film. Je voulais savoir si ça se rapprochait.
Mais non, mais alors figurez-vous que c'est pas ça, mais aux États-Unis, on m'a en effet proposé quelque chose autour de l'Arabe du futur, et alors j'ai refusé. Vous voyez comme quoi on est.
Le niveau, il est
là. Les rêves et la réalité, c'est pas pareil.
Quand t'es un crevard et que quelques années plus tard, tu refuses Hollywood, ça en dit long sur le succès et le talent de cet homme. Il s'appelle Riyad Satouf, l'Arabe du futur 6, ça raconte votre vie. Merci d'avoir
merci
été avec
à vous,
nous
merci
en direct, c'était un grand plaisir. Demain, on se retrouve évidemment pour Culture Média. Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes. Excellent essai signé Elena Pascunelli. Elle sera notre invitée dans la partie Infomédia du jour. Et puis ensuite, Louis Chédid qui revient avec un album en noir et blanche. Il revisite son répertoire. Pourquoi noir et blanche ? Parce qu'au piano, avec Yvan Cassar, pianiste, chef d'orchestre, arrangeur d'immense talent, ils seront tous les deux avec nous. Juste après le flash, immense talent. Elles sont deux aussi.
C'est
Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Bonjour.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier de la gastronomie française. Je pense qu'il y en a sur quasiment toutes les tables. Vous aimez le pain ? Le pain, oui,
j'adore.
Tout simplement. Il y a de Satouf, le pain, vous en
oui,
mangez ?
Oui, j'adore, oui.
Vous le préférez comment ? De seigle, complet,
non,
tradition ?
Le plus noir possible.
Le plus noir possible. Bon, il y en a pour tous les goûts.
Frais et qui vient de sortir du four.
Il y en a pour tous les goûts, on l'adore, le pain en France, mais il peut nous poser question parfois, Julia.
Oui, notamment sur le poids, si vous faites attention à votre poids, quel pain manger, et puis si vous êtes diabétique également, des pains pas trop sucrés. Bref, on va en parler dans Bien fait pour vous, voilà le programme.
Et on voilà. Casse la croûte. Merci beaucoup. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut, à demain.